Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourre, de Tata
Roussanou.
Verratti, là, tu la baraque et puis Marquitos.
Clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là, Daniel bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également, salut Florent.
Salut à tous et salut aux amis du bémol bien sûr.
L'événement ce soir dans l'after, c'est l'équipe de France hein, en plein doute, à un peu moins de deux mois maintenant de la Coupe du Monde. Florent veut justement donner son avis sur l'état des Bleus, Florent qu'on a quitté pendant près d'une semaine, donc là il est de retour avec... avec des matchs dans la musette. Donc, il veut nous dire ce qu'il a vu. T'as bien raison, parce qu'il faut qu'on fasse un petit bilan avant de repartir vers le foot de club dans quelques jours. Daniel également veut donner son avis, bien sûr. À 23h, nous irons au Qatar, les gars, pour avoir le témoignage d'un Français en direct qui vit sur place. Il était présent lors du fameux match test qui a tourné au fiasco. Alors, est-ce que c'était vraiment un fiasco? C'est intéressant, parce que finalement, on a peu d'écho sur place de ce qui se passe. Donc, il sera tout à l'heure avec nous. À 23h. À 23h20, on vous dévoilera le classement des clubs qui se sont le plus fait pigeonner lors du dernier mercato. Je vous en ai parlé la semaine dernière, on n'a pas eu le temps. Mais là, on va prendre le temps quand même de faire le classement des pigeons. Bah tiens, il y a des clubs français en plus.
Ah bah oui.
Notamment un que Florent aime bien depuis peu.
Il y a eu un peu de panic buy à Rennes.
En fait, pour être pigeon, il faut avoir du blé. Tu veux pas te faire pigeonner quand t'as pas de blé.
Ça, c'est vrai.
Globalement.
Et après, il faut être parfois un peu en retard.
Oui, d'abord, il faut avoir du blé. Et après, tu le dépenses.
Ou alors, il ne faut pas avoir de stratégie. Ou une mauvaise stratégie. Bref, on en reparlera tout à l'heure. 23h30, quelle ambiance veut-on dans le stade? Nous en débattrons suite à l'appel d'un groupe de supporters du PSG qui veut relancer la tribune Boulogne. Leur représentant sera avec nous, il nous expliquera la démarche. Et puis, plus globalement, ça nous permettra de débattre sur l'ambiance actuelle de nos stades. On a souvent parlé des problèmes récemment. Finalement, les gens positifs qui veulent mettre l'ambiance avec une démarche peu innovante, bon, il faut aussi qu'on puisse leur donner la parole.
Absolument.
Ce sera tout à l'heure. Tout ça sans oublier les matchs qui sont en cours, puisque vous l'avez entendu avec les rôles de l'âme, il y a de belles affiches là. L'Allemagne qui mène 1-0 en Angleterre, il reste une demi-heure. L'Italie qui mène 2-0 en Hongrie, il reste un peu moins d'une demi-heure. Voilà les deux principales affiches. Je ne vais pas vous
parler. L'Estonie qui mène à San Marin 2-0.
Non, je n'avais pas prévu.
D'accord, ok.
Je peux dire que la Géorgie de Willy Sagnol continue son sans faute en menant 2-0 à Gibraltar.
Très bien.
Voilà.
Ah, vraiment du lourd.
Ah, ça, c'est effectivement, c'est pas très très lourd. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, on a un match des espoirs ce soir. Et
là, c'est du lourd. Hein.
À Valenciennes. Jean Baumel. France-Belgique à Valenciennes.
Excusez-moi, mais vends-moi ce match parce que je vois pas en quoi c'est intéressant d'en parler.
Écoute, c'est un match.
Dis-moi quelque chose là. Tout
match amical, tous les deux qualifiés pour l'Euro 2023.
Là, t'as vraiment été très très mal.
Et non, mais côté français, franchement, au niveau du 11 de départ, et même sur le banc, t'as quand même du beau monde. Et du côté belge, les Belges mènent 1-0 grâce à Ramazzani.
De la Ligue 1.
But marqué par Ramazzani avec une passe de Doku hein, voilà. Il y a quelques joueurs hein, qui a été très bon. Doku même un peu trop perso, mais franchement c'est plaisant. On voit qu'il y a du talent de chaque côté. Après côté français, attention, superbe tir là de la part de Cherki qui vient d'entrer hein. Il a remplacé Kalimuendo et corner à suivre, superbe parade du gardien belge. Donc 1-0 pour les Diables Rouges, les jeunes Diables Rouges. 50 minutes de jeu. Je t'ai fait rêver, Daniel ? Pas trop.
Pour l'instant.
Moi, stratégiquement, j'aurais plus attaqué. J'aurais plus attaqué en disant tiens, ça permet de voir Cherki peut-être dans des conditions différentes. Lui.
Wesley Fofana qui va peut-être faire.
Wesley Fofana qui voulait être en A et qui n'y est pas, qui était vexé. Enfin, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Je n'aurais pas employé la même stratégie que toi.
Et le but, voilà, l'égalisation. Ça a permis de tout simplement, cette petite parenthèse, Tanguy Kouassi. l'ancien joueur du Paris Saint-Germain désormais au FC Séville. Une tête sur corner et donc il trompe le gardien belge. Ça fait un partout, voilà. On a, au moins on aura vécu un but ensemble.
Et passe D de Cherki qui venait d'entrer comme tu l'as dit. Est-ce que c'est lui qui tire le corner?
Fais-nous voir la compo vite fait là, parce que là je vois qu'il y a Thuram.
Le fait.
Alors,
le fait.
Alors tu as Fofana dans le but, tu as Gusto, Fofana, Kwasi, Laroussi, Lefe, Kakré, Thuram, Diop, Gouiri, Kalimundo, c'est en première mi-temps, il y a eu un changement là, l'entrée de Cherki à la place de Kalimundo. Et sur le banc, t'as quand même Wai, t'as Loukeba, Kaloulou, ouais, il y a quand même du beau monde. Hein.
Bon, donc comme d'habitude, on a une équipe espoir qui très franchement.
A de la gueule.
Ah, et voilà, t'as quand même
Thuram, le fait.
Le problème, c'est que c'est une équipe Ligue 1.
Non, mais ils se sont quand même qualifiés. C'est bien ce que ça devient, directement,
c'est ça.
C'est pas mal. Quand même pour
ça
un
n'est pas une référence.
Le fameux réservoir. Non, mais on a réservoir.
N'empêche que
le monde entier nous envie, j'ai entendu les autres pays dire les Français, eux, ils ont un réservoir.
Oui, à Chonosseur, oui, Sao Paulo et Paris, etc.
Et le réservoir, après, ça donne les clubs de Ligue 1 du jeudi soir.
Là, on me dit même, c'est peut-être même plus un réservoir, c'est une citerne. Sauf que le problème.
C'est ça.
Sauf que le problème, c'est qu'en fait.
C'est qu'elle se transforme beaucoup en placard.
Et puis surtout, les espoirs, c'est quand même un mystère absolu. Que ça donne quasiment jamais rien en fait.
On n'a pas le droit de dire.
C'est pas vraiment un mystère justement pour les raisons qu'on évoque souvent.
Ouais. Il y a quand même moyen.
Il y a un mélange de prise de boulard précoce, de mauvais coach, de désintérêt des joueurs qui sont dans cette catégorie pour la catégorie, de surévaluation des types qui, comme je le dis souvent en France, prennent un boulard monstrueux en pensant qu'ils n'ont rien à faire là mais qu'ils devraient être ailleurs. Et ça donne ensuite. Déception, parce qu'ils affrontent des gamins qui sont un peu plus dans l'humilité qu'eux et qui les ramènent à la réalité. C'est ce qu'on voit à peu près depuis 20 ans.
Et puis dans des catégories inférieures à celles des espoirs, on a des équipes de France qui se comportent comme des nazes et qui se font expulser avec 4 joueurs en 20 minutes.
C'est encore autre chose, ça sert à Kylian.
Ouais, mais ils sont censés monter dans les divisions supérieures.
Ce serait quand même pas trop compliqué de leur expliquer à ces jeunes, là, Thuram, Lefebvre et compagnie, d'écouter les gars là. Ok, les espoirs, ça vous fait peut-être pas rêver, mais enfin, c'est là qu'on va voir si vous avez du caractère, les mecs. C'est là qu'on va voir ce que vous avez dans le bide. C'est là maintenant.
Je viens de dire, il y a un sujet très important. T'as commencé la phrase comment?
Je sais plus.
Il faut leur dire. Qui va leur dire en fait?
Ah oui, non, mais bon, ok. Non, mais
qui va leur dire en fait?
Eh ben, un mec.
Ça fait 20 ans que ça dure, donc qui va leur dire?
Un gars qui vont, on va dire, adouber pour qu'ils reçoivent le message, je sais pas. Mais,
je sais pas, c'est l'équipe de France, Espoir, elle dépend de qui?
Non, mais de la Fédé.
Ok, donc qui va leur dire?
Le président.
Qui va leur dire?
Non, mais peut-être qu'il fallait. Moi, je parlais de Willy Sagnol, qui est actuellement à la tête de la Géorgie. Il a été sélectionneur des Espoirs.
Il a craqué face à cette mentalité-là.
Ouais, mais rappelle-toi au début, on l'avait reçu. Il nous avait dit, moi, je veux changer tout ça en espoir.
Il avait donné une très belle interview, je me souviens. Alors attention, Daniel, France Football, il avait pas, sur le sujet.
Il avait craqué, mais il était surtout parti parce qu'il y a un club qui lui proposait un poste. Sinon, il serait sans doute resté.
Sur la mentalité, il avait craqué. Il était au bout du rouleau sur la mentalité des jeunes Français.
Tu sais que c'est ce qui est terrible sur l'évolution, puisqu'on recevait Bertrand Demain de la semaine dernière, c'est qu'à une époque, il y a eu une équipe de France, tu sais, qu'on appelait B, pas forcément une des espoirs. Et les gens qui allaient en B, respectaient cette équipe de France, parce qu'ils savaient que c'était un peu l'antichambre. Tu vois, il n'y avait pas du tout ce mépris pour une sorte de catégorie intermédiaire.
Bon, enfin voilà, donc c'est toujours un partout. Et c'est vrai que c'est malheureux, mais ces espoirs qui devraient normalement éclater à peu près tout le monde, avec notre citerne, n'éclatent à peu près personne.
Mais moi, je pense encore une fois que tu fais une erreur à dire ça, parce que ça n'est pas que du papier, le football.
Non, mais je dis la même chose, en vérité.
Rien ne dit que ces gars-là soient aussi forts qu'on le pense. C'est juste que parce que nous, on les fait démarrer très très tôt dans notre championnat, donc tu les vois en Ligue 1.
Ah voilà.
Tu les vois en Ligue 1.
Parce que tu vas prendre les 11.
Chez les gamins, ils vont être forts, mais rien ne dit qu'ils sont si forts que ça.
Non, mais par exemple, je te donne un exemple.
On compare les clubs où ils jouent.
Non, mais je vais donner équipes espoir depuis 20 ans.
Titulaire, pas titulaire,
devenir joueur.
Non, mais prenons un exemple, par exemple, dans cette équipe-là, espoir. Wesley Fofana.
Ouais.
Que moi, je trouvais être un très bon défenseur. Il a quitté le championnat de France. Il est allé en Angleterre. Il s'est imposé en Angleterre à tel point que Chelsea l'a recruté.
But de Kyle Havertz, ça, excuse-moi, Flo, je te coupe, mais très très beau but de l'Allemagne. Là.
Et 2-0 pour l'Allemagne.
L'Angleterre passe de moins 7 à moins 8
en musique, en différence de but.
The New Pop, là.
Ah voilà, j'attendais.
D'ailleurs, c'est mieux, parce que c'est le nouveau gardien, c'est mieux de dire le New Pop.
Très bonne série, d'ailleurs, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu.
Wesley Fofana, ouais. Saint-Etienne, l'Angleterre, là maintenant Chelsea. Effectivement, il peut prétendre. Enfin, en tout cas, il peut prétendre à l'équipe.
Et jouer en espoir, là, ça le gonfle.
Non, mais t'as le droit aussi d'être ambitieux et d'avoir envie à deux mois de la Coupe du Monde, pourquoi pas. Oui. Mais bon, je pense que par exemple, il y a quand même, pour revenir à ce que vous disiez sur le niveau, il y a quand même des joueurs qui ont le niveau, qui peuvent prétendre à ça.
Oui, moi je pense
autant à Lefay, qui est très bon en Ligue 1, tu sais pas encore ce qu'il vaut au niveau international, ou il s'est pas encore frotté dans des grands championnats européens, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Oui.
Kyle Havertz, l'homme qui ne sourit jamais.
Le Buster Keaton du foot.
Ah, lui, le sourire coûte cher, hein, chez lui.
On aurait bien, enfin, en tout cas, un pied gauche enroulé à la Jérôme Bretagne.
En tout cas, grâce à Havertz, c'est une belle éclaircie dans ce match en Angleterre-Allemagne.
Pas mal.
Exactement.
Bon, voilà la grosse parenthèse espoir qu'on n'est pas prévu de faire, mais enfin, comme c'est l'actu du soir.
L'autre parenthèse, c'est que Jérémy Doku a fait une passe décisive. C'est ton petit. Voilà.
Ouais, Jibo a dit qu'il était perso aussi.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, d'ailleurs. Oui, il a raison.
Allez. Est-ce qu'on ne sait pas si sa maman est venue au stade?
En tout cas, il court beaucoup, il sue, du coup.
Donc. Bon. Je ferai pas en direct le jeu de mots de Daniel, vous aurez compris.
Ah non,
c'est bon. 22h13, dans un instant, l'équipe de France A est au programme. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h16, Florent Gautreau et la Daniel Riolo et là et un but dans le match France-Belgique espoir dont on parlait il y a quelques instants, Jean Bommel.
Ouais, but pour les Belges d'ailleurs, c'est Yari Verskaren qui est titulaire lui en Anderlecht et qui est des fois il est aussi avec Léa, ce qu'on précise, mes confrères belges, et avec une belle passe de Logan Ndembe, mais voilà, pour le gardien français Yaya Fofana, c'est quand même un ballon entre les jambes. Petite humiliation entre guillemets parce que franchement se sont fait transpercer les bleus de Sylvain Ripoll. Donc 2-1 ici à Valenciennes en faveur des Diables Rouges qui, rappelons-le, sont à 10 km de la frontière ici.
À tout à l'heure. Pendant ce temps, on a toujours 2-0 pour l'Allemagne face à l'Angleterre, 2-0 pour l'Italie. En Hongrie, but des Anglais à l'instant, hein, c'est ça?
Le ballon a franchi la ligne, je crois.
Ah non.
La montre a vibré.
Ah oui, la montre a vibré.
Ouais, je pense que la montre a vibré. Ah,
donc 2-1 désormais pour les Allemands. Je n'ai pas vu qui a marqué. Je sais pas si. Bon. Ah, Luke Shaw, Daniel, ton micro, peut-être.
Pourquoi le micro?
C'est lui, c'est Luke Shaw.
Il était coupé, tu étais censuré.
Ah, ok. Bah, donc je disais que c'était Luke Shaw.
Très bien.
Voilà.
Voilà, 2-1 pour les Allemands. L'équipe de France, on y va. Jingle Gautreau, s'il vous plaît.
Thierry, tu peux faire le geste de ta vie. Monsieur l'arbitre, tu fais main. Il ne l'a pas fait. Pour lui, pour tout le monde, c'est tellement dommage.
Wow. C'est tellement vieux.
J'ai l'impression que c'était une autre époque.
Bon, alors, t'as regardé ces deux matchs-là, t'étais pas dans l'after et tu voulais y revenir ce soir, on t'écoute.
Ouais, je voulais y revenir en disant que paradoxalement, la séquence a affaibli les Bleus parce qu'évidemment, tout le monde s'inquiète et tant mieux parce que. Parfois, on s'inquiète pas assez.
La séquence, je veux dire la semaine.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. La semaine des Bleus et les deux matchs.
Bien, avec le service politique.
Laisse-le parler comme un chroniqueur politique.
Ouais.
J'aime bien.
La séquence n'a pas souri aux Bleus, mais finalement, a renforcé Deschamps. Pour moi, ça a renforcé Deschamps. En tout cas, ça l'a laissé tranquille. Et Deschamps, pour lequel et autour duquel il y a beaucoup de questions qui se posent, ça l'a renforcé dans ce que lui aime dire et aime faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pas fait pour moi me rassurer, hein, pour tout vous dire, parce que je garde les mêmes questions en tête et je pense qu'on va avoir les mêmes questions, les mêmes interrogations, sauf qu'on va être encore plus proche du mur qu'est le mondial et que ça va être encore plus compliqué de résoudre ces problèmes. Pourquoi en fait ça a sauvé un peu Deschamps? Parce que d'abord, il n'a pas eu à se justifier sur des choix qui, et ça c'est vrai, ont été contraints. Entre 11 et 15 absents entre le début et le milieu du rassemblement, il est très clair qu'il n'a pas pu faire l'équipe qu'il aurait voulu faire, qu'il est allé, comme tu avais pris l'expression, et c'était pour rire, hein, mais pour rappeler l'expression de Domenech, il est allé racler un peu les fonds de tiroir. Et c'est vrai que cette équipe, sans automatisme, elle lui permet en tout cas de s'appuyer sur le fait qu'il y avait beaucoup d'absents et il n'a pas, entre guillemets, à s'expliquer sur des tas de choses. Deuxièmement, justement, là aussi, lui qui, tactiquement, navigue un peu à vue sur la défense à 3, la défense à 4, enfin, on voit qu'il est capable, enfin, on peut pas appeler ça du pragmatisme, on peut appeler ça aussi un petit peu de l'errance tactique, il n'a pas à se justifier non plus parce que il n'a pas tort, encore une fois. Hier, c'est des coups de pied arrêtés défensifs mal gérés, notamment sur le marquage. Donc lui, il aime, il a pu parler de ce qu'il aime, la discipline. La discipline individuelle, et il a raison qu'il n'a pas été bonne. La rigueur que doit mettre tout joueur dans ces séquences-là, ça n'a pas été bon. Et il peut s'appuyer en disant que bah oui, ces gars-là, en gros, c'était ce qu'on lisait dans les sous-titres, qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont pas pris la mesure d'un tel match, n'ont pas été à la hauteur en termes de discipline. Donc il a parlé, en gros, des absents, on a parlé pour lui des absents qui, pour une fois, n'ont pas eu tort, puisque ils se sortent renforcés, ces absents de cette séquence, puisqu'on dit maintenant, j'ai eu des textos hallucinants sur Pogba, en disant, vous vouliez Tchouaméni, maintenant, vous voyez, vous êtes bien fait, maintenant, heureusement que Pogba va peut-être revenir pour la Coupe du Monde. Non, je maintiens que les mêmes interrogations subsistent, et je vais venir après. Et puis la troisième chose, il peut s'appuyer aussi sur, et j'ai écouté les drôles de dames dans les deux premières heures, sur les voisins, en disant que en fait quand je me regarde je me désole, mais quand je me compare je me rassure, parce que finalement les Italiens, les Espagnols, les Anglais, même les Allemands, j'écoutais Polo, même s'il n'était pas particulièrement inquiet, n'ont pas de certitude plus grande, et à l'inverse même ces sélections là disent comparativement aux Français qu'elles ont moins de réservoirs que les Français. Donc si tu veux, cette séquence là qui aurait pu être un signal d'alerte pour tout ce que fait Deschamps, parce qu'il y a plein de questions qui se posent sur le système, sur les joueurs et notamment sur les cadres qui sont d'ordinaire titulaires avec les Bleus, mais cette séquence là finalement, elle lui permet entre guillemets de passer, on va passer le mois qui vient en évitant à nouveau de poser ces problèmes là et au contraire on va se retaper le Deschamps qui va forcément remettre ses cadres. Il va revenir avec ses Varane, avec ses Loris dans les buts et autres, puisque Maignan en plus s'est blessé. Et on va se retrouver avec les mêmes questions et avec les mêmes interrogations, et notamment en termes de système derrière. Et je pense que ces questions ne sont pas réglées. Donc ça a renforcé Deschamps dans le sens que il n'est pas sur la sellette aujourd'hui parce qu'il a des excuses pour cette semaine à deux matchs. En revanche, les mêmes questions vont se poser, mais plus près du mur. Et à mon avis, elles vont se poser très très fort. Et je pense que on va avoir une Coupe du Monde très compliquée, et que non seulement on n'a pas avancé, mais qu'on a sans doute un peu reculé parce qu'on n'a pas pu trancher dans le vif certains sujets, notamment en défense.
L'Angleterre a égalisé avant que Daniel dise si tu es d'accord ou pas. 2-2.
On avait eu le beau but d'Arvers, mais celui de Mantes est magnifique aussi.
2-2 entre Anglais et Allemands, il reste un quart d'heure. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Florent?
Je suis pas sûr d'avoir tout compris, la vérité, à ce que voulait dire Flo. Je suis un peu désolé.
T'as
tout compris?
Ouais.
Écoute,
j'ai quelques bémols, hein, parce que c'est Flo.
Mais... Ouais, alors justement, je sais pas si ce que je vais dire on va représenter un bémol par rapport à ce qu'il dit. Et je vais parler de la tactique, puisque Flo en a parlé et des questions que lui se pose et qu'on se pose tous sur la tactique. Parce que je crois qu'il y a de plus en plus d'observateurs qui n'arrivent pas réellement à comprendre ce qui est mis en place. Je me souviens d'il y a un mois, peut-être, là, au début de la saison, on avait fait un gros thème sur ce fameux 3-4-3. Et j'avais dit que, très souvent, cette tactique, c'était un peu la tactique de ceux qui ne savaient pas quoi faire comme animation offensive et qu'il y avait des joueurs qu'il fallait faire jouer ensemble. Moi, je crois que cette tactique, il l'utilise et il l'a mise en place parce qu'il s'est dit, je vais avoir trois mecs offensifs et il faut que je les casse tous les trois. Mbappé, Griezmann plus un, Mbappé, Griezmann plus Benzema.
On a eu ce débat d'ailleurs en disant que quand il faisait des choix qui avaient l'air assurés, il les faisait par défaut.
Exactement.
Contraint, quoi.
Là, je suis d'accord avec toi. Donc, je pense que c'est un peu contraint par ces trois hommes-là qu'il va continuer et qu'il risque de s'obstiner dans ce schéma-là. Sauf que ce schéma-là, il est composé maintenant d'un joueur qui a, sur la fameuse séquence, comme tu l'appelles, a pas été mauvais par rapport à ce qu'on pouvait penser au vu du nombre de matchs qu'il joue, Griezmann. D'un avançant de Benzema qui va devoir revenir et s'intégrer au collectif. Je m'inquiète pas trop pour ça. Mais peut-être d'un problème Mbappé naissant. Mbappé, c'est un peu tout ou rien en ce moment. Est-ce qu'il va continuer comme ça? Mais il est dans un début de saison tellement isolé par ce qui s'est passé au PSG. Je pense que vous avez vu la dernière sortie de Léo Paredes.
Oui, je comptais en parler tout à l'heure.
C'est incroyable. Tellement ça en dit long sur ce qui se passait en interne.
Ah, du coup, vu que t'en parles, faut qu'on dise ce qui s'est passé.
Non, parce que franchement, c'est ce genre de phrase, faut pas passer à côté parce que on dit toujours que les footeux ne disent jamais rien. Mais parfois, des demi-mots, ça veut dire 10 fois plus.
Alors, je vais vous dire ce qu'il a dit. Donc, Paredes, dans le cadre de la sélection, est interrogé sur Mbappé. Et il dit, je peux rien vous dire parce que moi j'avais une relation avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je peux pas vous en parler. En gros, entre moi et Mbappé, il y avait pas de relation.
On sait les liens qui unissaient. Voilà.
C'était Paredes à Messi
et
d'abord à Neymar.
À Neymar.
C'était le lieutenant Neymar avant Messi arrive.
Ajoutons ça à la phrase de Neymar après Brésil-Ghana et voyez un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir au PSG, qui ont isolé Mbappé. Et qui est dans une attitude en ce moment toujours plus individualiste de chasse au record, permanente. Alors, ça ne l'empêche pas d'être bon, souvent, et fatigant parfois. Bon quand il marque ce très beau but jeudi soir, hier, il a eu les occasions, il ne marque pas. Et on a vraiment toujours l'impression qu'il est un peu coupé du collectif. Donc je sais pas comment ça va avancer à la Coupe du Monde comme ça, parce que maintenant la prochaine fois qu'on va les revoir les Bleus, c'est à la Coupe du Monde. Donc
et,
voilà.
Et sur le 3-4-3 et plus généralement sur ces choix de Deschamps, c'est ça qui est à mon avis inquiétant. C'est pour ça que je disais que ça affaiblit l'équipe de France au regard de tout le monde, parce que tout le monde s'est posé la question ce matin, ce qui n'était pas le cas par exemple, puisque j'ai travaillé sur la Coupe du Monde 2002 là pour la revue de l'After, c'était pas le cas en 2002, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'accident venir là. À la limite, on pourra pas dire ça parce qu'il y a déjà des questions.
Non, on en parlait hier soir. Ça ressemble plus à 2010.
Oui, voilà. Il y a des questions qui se posent dès deux mois avant la Coupe du Monde, donc on n'est pas dans le même schéma. Mais c'est vrai que sur ce qui se passe devant et sur les choix de Deschamps, tu te dis effectivement, comme dit Daniel, ces choix-là, enfin le choix qui finalement fait qu'on joue à trois derrière est lié au fait de jouer à trois devant, enfin d'avoir ces trois-là devant. Ça rappelle d'ailleurs effectivement le PSG de Galtier, hein, pour faire simple. Mais c'est vrai aussi que derrière tout ça, il y a aussi quelque part une faiblesse tactique qui est résumée en une phrase pour moi côté Deschamps, c'est la discipline derrière, le talent devant. C'est-à-dire que lui a toujours une volonté de se dire.
C'est sa pensée. Ça.
Voilà. Moi finalement, c'est pas trop. Il a raison d'ailleurs. D'ailleurs, lui, il aime beaucoup.
C'est pas plutôt la discipline derrière et au milieu et le talent.
Oui,
devant.
Oui. Enfin, tu m'as compris. Enfin, défensivement de la discipline.
Excuse-moi, mais le milieu, c'est derrière aussi pour lui.
Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est. Tu sais, ça me rappelle tellement ces équipes. Effectivement, quand t'as la chance entre guillemets, hein, ce que tu crois être une chance et que tu crois que ça fonctionne en autogestion, d'avoir un Mbappé qui va te faire la diff, pour faire simple, et un Benzema d'ailleurs. Oui, tu peux effectivement être tenté, malheureusement, d'aller vers ça. D'ailleurs, il répond souvent à des questions quand on lui dit, mais le système 3 derrière ou 4 derrière et tout. Hier, il l'a fait au micro de TF1 à la fin du match. Et il a dit, c'est pour ça que j'ai dit qu'il avait des excuses hier.
Il va y avoir pénalty pour l'Angleterre, pardon Flo, mais ils étaient quand même menés 2-0.
Sacré renversement.
Et ça va faire 3-2 quand même.
Et hier, quand on lui demande de parler tactique, en fait, il trouve toujours dès qu'il peut, il trouve un échappatoire pour ne pas en parler. Et hier, c'était de dire, il n'y a pas eu de discipline sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et donc, je ne vais pas vous parler. Il dit, pourrait être 10, 12. Tu sais, il aime bien dire ça. Vous me saoulez, en gros, avec vos questions tactiques. Parce que Deschamps, en fait, il en reste à ça. Et quand tu en restes à, quand tu es Deschamps et que ça n'a pas marché à l'Euro, quand tu en restes à dire, la discipline derrière au milieu et le talent devant, ça va suffire. Moi, je dis que cette chose-là, ça marche sur certains malentendus, mais ça ne marche pas sur la durée d'une compétition.
Mon bémol, je ne te savais pas machiavélique comme ça, c'est qu'en fait, si je comprends ton raisonnement, Deschamps, ça peut l'arranger, ça l'arrange, d'avoir perdu hier soir.
Pour durer.
Comme ça, il arrive.
Ça l'arrange pour deux raisons, parce que Giroud a perdu aussi dans son esprit. Il l'a sorti à la 65e.
C'est vrai que tu n'avais pas encore parlé de Giroud et après 28 minutes.
J'étais surpris qu'il l'utilise. Tu sais, alors, je vais te dire si j'étais machiavélique. Je te dirais ce que je te dirais de Deschamps.
Là, c'est machiavélique de se dire, ça arrange Deschamps, comme ça j'arrive à la Coupe du Monde. Regardez, on n'est pas bien, donc là, si on fait un truc, ce sera extraordinaire, etc.
Il va peut-être pas arriver.
J'ai pas l'équipe, j'ai pas les joueurs.
Il va peut-être pas arriver comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé. Entre guillemets, juste titre, des excuses liées à l'effectif. Mais si j'étais complètement machiavélique, je te dirais qu'effectivement, j'ai été très surpris de la titularisation de Giroud. Et que je me suis demandé après coup si effectivement il s'attendait pas à galérer
en disant
équipe en galère, parce que moi je m'attendais vraiment à une
surtout qu'au départ il devait pas être titulaire.
Je pensais pas qu'il serait titulaire.
Et il est titulaire, et effectivement dans l'animation devant ça a été moins bon que dans le match contre l'Autriche. Voilà.
Il y a tellement Giroud qui va maintenant de trouver la titularisation pour le plomber.
Non mais il y a un truc qui sauve toujours Deschamps.
Dans le penalty des Anglais,
0-2 à 3-2 ou pas
d'ailleurs.
Alors, 0-2 à 3-2.
Kane.
T'as vu comment c'est filmé façon jeu vidéo?
Kane qui marque, pleine lucarne.
Une énorme lucarne, il a mis.
Exactement.
Dans deux styles différents.
3-2 pour les Anglais qui renversent le match.
T'avais déjà vu un péno filmé comme ça? Non, comme il était là vraiment.
Non, c'est
là
vrai
ça faisait vraiment genre quand tu joues à FIFA.
D'accord. Je me suis fait la
derrière, derrière le tireur.
Et je suis mais de derrière écrasé.
Ah ouais, de derrière
avec
écrasé.
avec le cadre des 7m32.
Ça faisait vraiment comme dans FIFA.
Et tout à l'heure,
j'ai jamais vu ça.
Regardez celui de Gundogan, ça faisait aussi une impression très FIFA et d'ailleurs il était très très bien tiré aussi et c'était très différent.
Dans un instant, on est de retour avec Geoffrey, il va donner son avis sur l'équipe de France lui aussi et puis on retrouve
Geoffrey, c'est un fan de Luke Shaw. Réfléchissez après la pub.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h33, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, et bien sûr on continue le débat, mais d'abord, match de fou.
La légende des gardiens anglais est entre
nous. Match de fou entre l'Angleterre et l'Allemagne, égalisation des Allemands à l'instant, 3-3 entre les deux équipes, Havertz qui marque effectivement Pope, là c'est plutôt The Young Pope en l'occurrence.
Mon Dieu. Et d'ailleurs,
il a presque fait une Donnarumma.
Justement, je pense que t'as raté un de tes sujets préférés.
Ah.
En même temps, tu peux pas tout voir. T'étais sur autre chose. Mais tout à l'heure, il y a eu une action avec un ballon un peu flottant dans la surface, prise de balle.
Oh là là.
Très très savonneuse de Donnarumma.
En mode gant.
Tu l'avais vu, je pense, t'arrêtais l'émission.
Oh là là. En mode gant en peau de pêche.
Gant en peau de pêche.
Non, mais moi, je vous le dis, Donnarumma, il faut qu'il aille voir un
marabout.
Non, un ophtalmo. Je pense que ce type a des problèmes de vue. C'est impossible de sortir comme il sort, en fait, et de passer à côté du ballon. Tu sais, il y a un problème de coordination.
Très bon.
Oh, but de désespoir, Jean Bonnel.
C'est beau parce que franchement, Cherki fait un travail extraordinaire. On pensait que c'était mieux qu'il passe le ballon côté droit. Il a percuté, il a fait un service parfait pour Eli Wahi, le Montpellierain, qui dribble le gardien et l'a mis au fond des filets. Franchement, très belle action des joueurs de Sylvain Ripoll. Deux buts partout, c'est plutôt logique. Il reste un petit quart d'heure à jouer.
Très bien, à tout à l'heure, Djibo. Oui, donc Donnarumma, peut-être qu'avec des lentilles, il sortirait mieux, je sais pas. Geoffrey est là au 32-16. Bonsoir, Geoffrey.
Salut l'équipe.
Salut Geoffrey. T'as écouté notre débat là ? Est-ce que t'es d'accord avec Florent qui estime que Deschamps est sorti plutôt conforté par cette semaine internationale non victorieuse, pour le deuxième match en tout cas ?
Conforté, je pense pas. Moi clairement, j'ai vraiment l'impression que Deschamps il est perdu. Je sens qu'il est complètement perdu. Parce que moi je le vois pas du tout comme un tacticien, comme un grand tacticien. Je le vois comme un sacré meneur d'hommes, quelqu'un qui sait préparer ses troupes. Mais là où on se retrouve, où il n'y a plus un joueur de dispo, j'étais vraiment étonné qu'il reparte sur un 3-4-3. Mmh. Je me suis dit, il va repartir avec ce qu'il sait faire, une défense à 4 et assez costaud. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi, sans les joueurs... titulaire, il continue sur ce système et j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Pareil,
on parle, fait le bon choix. Alors attention, parce qu'il faut quand même avoir de la mémoire.
Et c'était long. C'était
quand il a longtemps joué dans un schéma avec défense à 4,
défenseur.
Pendant longtemps, on s'est dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il ne change pas pour une défense à 3? Tu t'en souviens, Geoffrey? Et maintenant, on en est à la position inverse.
C'est surtout avec les joueurs qu'on a actuellement, quoi. Pourquoi? Que des jeunes. Qu'on pas d'expérience, on ne sait pas.
Voilà, il y a 15 absents quand même, hein. Faut rappeler. Hein.
Ouais, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas qui sera au mondial. Derrière, qui peut s'assurer qu'on va avoir une défense correcte. Même, j'entends, quand je lis qu'on attend Varane, le grand Varane, que j'adore, qu'un joueur que j'adore. Moi, Varane derrière, pour moi, c'est pas l'assurance touriste, quoi.
Bah, pas du tout. Donc, tu sais ce que tu dis, ça, c'est
ça
juste.
Ça l'est moins, ça l'a été, ça oui. L'est moins.
Non, mais le problème, c'est été, ce que je dis, en disant que Deschamps sortait renforcé, c'était ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va empêcher Deschamps, maintenant, de remettre Varane en disant, hey, les gars, vous avez vu? Hein, vous vouliez des essais, j'ai des effets contraints peut-être, mais j'ai des effets. Donc maintenant, vous êtes gentil, on va revenir avec Varane.
C'est ça que tu entendais.
C'est pas machiavélique jusqu'au point de dire qu'il a fait exprès de mettre Varane en sachant qu'il allait faire la défense.
Non, 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 sauf qu'on va voir. Et donc, on revient finalement.
Dans ces cas-là, ça va être la même pour Kamavinga, qui a quand même fait un match terrible et qu'on attendait, dont on parle en bien depuis très très longtemps.
Oui, mais le problème de Deschamps,
n'arrive pas. Ça n'a rien à voir avec Tchouaméni. Kamavinga, Ancelotti est assez critique à son égard. Là, en équipe de France, il a une belle opportunité. On peut dire qu'il se trouve complètement. Je sais même pas si il est bon de l'emmener à la Coupe du Monde.
Oui, mais le problème, si tu veux, c'est ça qui est terrible. Il y a des joueurs qui arrivent plus vite que d'autres. Je pense qu'un Tchouaméni y arrive plus vite qu'un Camavinga. La preuve au Real, la preuve même chez les Bleus. Mais le problème de Deschamps, c'est que comme il n'a pas anticipé, comme d'habitude, d'ailleurs pour ces équipes qui ont gagné un gros trophée. C'est l'histoire de ces équipes. Tu sais qu'il est dur de renouveler parce que c'est dur de changer les caps. Tu parles de Griezmann. Pour moi, Griezmann, lui aussi, il est sur la pente descendante, même s'il a fait une semaine correcte.
Bah souvent, quand tu as été champion du monde, derrière, c'est
voilà, c'est très dur. Donc il est sur la pente descendante. Il est sur la pente descendante. Deschamps, il n'est pas bête, le sait. Mais Deschamps nous dit en gros entre les lignes, les gars, vous êtes gentils. Mais on n'a pas mieux en ce moment. Et moi, avec ces gars-là, j'ai de l'expérience, j'ai du vécu, j'ai des statuts, et on va faire une bonne équipe. Le problème, comme tu dis, Geoffrey, c'est que ça renforce un Varane qui n'était pas là, alors qu'on sait, si tu reviens quelques semaines en arrière, que Varane n'est plus le Varane qu'il a été. Et moi, je suis d'accord avec toi, et là, je suis d'accord avec Deschamps. Si tu commences les fondations par la défense, je pense que le premier des problèmes qu'on va rencontrer à la Coupe du Monde, ça va être effectivement un problème défensif. Parce que lui-même ne sait pas s'il veut jouer à 3 ou à 4 derrière.
Ah, ben là, il semble parti pour le 3 quand même.
Je pense que lui, lui.
Pour encore une fois, pour faire jouer les 3 devant libres.
Deschamps hésite beaucoup. La seule chose avec Deschamps, et d'ailleurs pour Giroud, c'est un peu la même chose, il est tellement pragmatique que si en revanche il y a des soucis et il y a vraiment des besoins et autres, il est capable, de, même s'il n'avait pas envie là, trop de le prendre, il est capable de le prendre. S'il en a vraiment besoin, il ne va pas s'entêter. Si tu veux, on sait bien. Deschamps, il a changé ses latéraux.
Je pense qu'il le prend. Je pense qu'il part avec 3 derrière. Je pense qu'il part avec l'idée que Benzema, Mbappé, Griezmann, ce sera son trio offensif qui va leur donner la liberté et que derrière, il va mettre une équipe avec 7 joueurs plutôt défensifs et qu'il ira comme ça parce qu'en 2018, c'était ça et que c'est ce qu'il maîtrise le mieux. C'est sa tactique, c'est sa connaissance du football et qui va revenir à ses fondamentaux parce que à l'Euro, il y a eu tentative de changement et un point de vue un peu différent, ça n'a pas marché. Celui qui portait ce discours différent, c'était Pogba, a priori, il sera pas là. Donc, il va repartir avec ça. Il trouvera le meilleur complément à Tchouaméni au milieu. Deux hommes dans les couloirs, que ce soit Théo Hernandez ou Pavard ou très probablement Pavard. 3 mecs dans l'axe. Et on y va comme ça avec la transition. On envoie le ballon sur Mbappé qui accélère. Benzema avec sa qualité technique et voilà.
Sauf que Daniel, les interrogations que l'on a, que j'ai sur Loris, Varane.
Il
n'aura
pas de réponse à ces interrogations.
Oui, mais Loris, Varane, Pavard, Griezmann, je te dis que ces débats-là, je prends le pari dès maintenant qu'on les aura très
Griezmann,
rapidement.
Ça a l'air d'aller.
Non, mais là vous dites ça, mais le Griezmann qui a l'air d'aller, c'est un Griezmann qui ne marque pas de but, c'est un Griezmann qui n'est plus le Griezmann qu'on a connu, et ça, pour moi, ça ne suffira pas pour une Coupe du Monde.
Et quand on va tomber sur une grosse équipe, les failles avant se voir. Quoi.
Ouais.
Moi, je suis d'accord avec toi, Flo.
Ah.
Griezmann a fait une bonne semaine, mais à partir du moment où.
Oui, mais de toute façon, il peut pas faire autrement. Dans l'équipe qui veut monter, il mettra pas Dembélé. Il démarrera avec Griezmann. Ça lui donne un peu plus de contrôle au milieu parce que il va démarrer avec 2 milieux plutôt défensifs. Tchouaméni plus 1. Et probablement Fofana parce qu'il adore tellement. Plus c'est costaud, plus c'est solide, plus il aime. Il aime ça, il aime le muscle.
Après, là,
Deschamps, c'est un homme qui aime le muscle.
Après ce que tu dis, Daniel.
Il aurait dû être entraîneur de boxe ou de catch.
Sur Paredes et sur le PSG, c'est intéressant quand même aussi. Parce qu'il y a les questions qu'on se pose sur le niveau des joueurs et sur ces fameuses générations qui déclinent, comme l'on dit, de manière naturelle. Hein, ce n'est pas une critique pour dire qu'ils sont nuls, c'est qu'ils déclinent, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus à leur meilleur. Et puis, il y a aussi le vestiaire. Parce que t'as beau dire, c'est un ensemble. Donc il faut aussi savoir comment cette équipe de France va vivre. C'est l'une d'ailleurs des qualités de Deschamps, de la génération Jacquet, de savoir faire vivre un groupe. Mais là aujourd'hui, on a quand même plein de choses qui peuvent, entre guillemets, ébranler ce groupe-là. Je dis pas que là pour l'instant c'est la guerre, hein, pas du tout. Mais tout ça, il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Donc on a quand même, voilà, il y a quand même pas mal d'interrogations. Elles sont repoussées forcément à très très tard, c'est-à-dire à quelques jours, quelques semaines avant la Coupe du Monde.
Merci Geoffrey.
Salut les gars.
Salut. Bonne soirée, à très bientôt pour reparler de l'équipe de France. Nous, on revient dans quelques instants avec nos drôles de dames pour la fin des matchs, là, Angleterre-Allemagne. On est dans la 6e minute de temps additionnel. Il y a 3-3 entre les deux équipes dans l'autre match du soir.
C'est fini, 3-3.
dans l'autre match du soir. L'Italie a donc battu la Hongrie 2-0 pour les Italiens, 3-3 terminé entre Allemands et Anglais. On retrouve notre drôle de dame dans quelques instants. Et puis on n'oublie pas les espoirs.
Les Belges à la 85.
Jimbo, France-Belgique espoir.
Ah, la belle parade du gardien français Fofana sur la tentative de Vranckx. Franchement, c'est un beau match. On sent qu'il y a aussi la rivalité juste à côté, parce qu'on a la frontière. Il y a des supporters belges présents dans le stade du Hainaut. Franchement, un bon petit match avec des joueurs très intéressants côté belge. De partout, il reste 4 minutes 30 à jouer.
C'est qui le gardien des Français là?
C'est Yaya Fofana d'Angers.
Très bien.
Et c'est la fiche historique quand même. C'était le premier match de l'équipe de France.
Il n'y a jamais autant de Fofana dans le foot français. Hein.
C'est vrai. Oui, ils étaient déjà.
Yaya Fofana, Wesley Fofana.
C'est un nom à la mode. À une époque, c'était les Mendy qui dominaient.
Le Fofana de Bordeaux, j'ai oublié son prénom, ça sera ce bourgeois maintenant. Youssouf Fofana.
Oui.
Mm-hmm.
Bref. Non, il y en a un paquet.
Très bien.
C'est Coco Fofana, mais bon.
C'est Coco Fofana, bien sûr, il y a rien. Exactement. Jibo, on te retrouve dans quelques instants avec les drôles de l'âme, bien sûr. À 23h, on ira au Qatar. Et puis, n'oubliez pas que demain, soirée spéciale Coupe du Monde, on sera au Parc des Princes. Demain, il y a un beau match amical Brésil. Guichet fermé, c'est dingue.
Guichet fermé, non.
Brésil-Tunisie, ça promet une ambiance sympa. Oussem Loussaïef nous largue. Hein. Alors lui, il a dit non, mais excusez-moi, mais je vais en famille voir le match, je fais pas l'émission. Bon, on peut le comprendre.
Ouais.
Voilà. Donc on se retrouvera demain avec tout le monde pour parler du Portugal, des Pays-Bas. On ira en Argentine, tout savoir sur l'Argentine de Messi. Au Brésil également, on parlera de la Belgique. Bref, de spéciale Coupe du Monde demain soir avant de revenir doucement vers la Ligue 1 ensuite à partir de mercredi. Puisque notre Ligue 1, qu'on adore, bien sûr, reprend vendredi. Allez, à tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
22h45, Daniel Riolo et là, Florent Gautreau est là, et on retrouve Paulo Breitner, toujours là. Paulo, rebonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Yoann Crochet là également, Yoann, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à tous.
Et Julien Laurence qui est de retour.
Salut
Julien, rebonsoir.
Gilbert. On se récrit en 66 là, avec l'Allemagne-Angleterre. Enfin, ça a des scores de
voilà, d'ailleurs, sur le fameux débat Brésil-Allemagne, les meilleures équipes du monde, il n'y a pas que les résultats qui comptent quand même, les gars.
Vous êtes soyez
un peu romantiques quand même.
Ah bah, en l'occurrence, on l'est avec ces trois équipes-là. Mm.
Bah, si tu veux, 66, pour romantisme, on vient d'en parler. 70, il y a l'Allemagne aussi contre l'Italie. Enfin, je sais pas, 82, tu veux aussi, les Allemands jouent pas, non?
Ouais, le romantisme en 54, c'était plus la Hongrie que la jeunesse des Allemands, par exemple.
Oui, mais revisite la 1954, ce sera très intéressant.
Ah, on peut le faire un de ces soirs, Polo. C'est pas
très bien, ça, ouais.
Mmh. Quand t'as des joueurs amateurs, etc., aussi, c'est aussi du romantisme, ça. Mmh.
Et puis à 54, il y a un truc que j'adore, c'est la légende inventée par Adidas, comme quoi c'est grâce au crampon de Dassler que les Allemands ont gagné la finale.
Exactement.
Un peu court quand même, Polo.
Tout à fait, mais tu sais, la propagande, ça marche toujours.
Hein. Et en 54, une des Coupes du Monde, la France a perdu son match d'ouverture contre la Yougoslavie. Ah. Et derrière, il se faisait découper dans la presse de manière.
On a un peu oublié l'équipe de France en 54.
Ouais, ouais, mais c'est celle qui précède celle de 58. Oui. Donc on l'a oublié.
Bon, les matchs du soir. Match de dingue, Julien. Fin de match de dingue entre Anglais et Allemands, là.
Ouais, assez incroyable, ça finit 3-3. Effectivement, les Allemands menaient 3-0 et les Anglais marquent 3 buts en 11 minutes. On ne sait pas trop d'où ça sort parce qu'ils avaient été très pauvres jusque-là, à part l'occasion pour Sterling dont on parlait tout à l'heure avec Daniel à la fin des drôles de dames. Et ils marquent 3 buts en 11 minutes. D'abord Luke Shaw et puis ensuite Mason Mount, un très joli but. Ouais. C'est vrai que les entrées en jeu de Mount et de Saka ont beaucoup apporté à cette équipe anglaise. Et puis après le troisième but sur penalty, 3-2, et tu dis bon bah voilà, ça va être une victoire qui va peut-être un petit, au moins qui va apporter du positif, qui va leur permettre d'avoir deux mois un peu plus tranquille. Et puis finalement ils prennent un troisième but aussi, l'égalisation sur une boulette du gardien Nick Pope qui devrait jamais jouer de toute façon parce que Ramsdale est bien meilleur que lui en numéro 2 derrière Pickford, voire même peut-être même en numéro 1. Mais encore un choix du Raymond Domenech anglais un peu bizarre, mais bon, au final je pense que le match nul est quand même mérité. Et je pense pas qu'il méritait de gagner non plus.
Il sait que tu l'appelles comme ça?
Bah avant il l'appelait le Ripoll anglais, donc ça.
Voilà, mais alors le Ripoll il connaissait pas trop. Je pense que Domenech il connaîtra un peu mieux. Mais oui, ça va lui revenir aux oreilles parce qu'on lui répète tout ce qu'il dit sur lui dans la presse anglaise ou internationale. Donc ça.
Mais lui, ça il serre la main du
sélectionneur. Domenech.
En France?
Non, en Europe.
Dans le monde?
Non, je sais pas.
Dans les qualifications, c'est dur de faire pire.
Vous avez connu, voir si c'est en dessous ou au-dessus. crois que c'est compliqué.
Bah nous on a Sam Allardyce avec un match, puisqu'après il a fait ses magouilles, il s'est fait virer, mais bon, on peut pas vraiment juger sur un match.
L'Angleterre, ouais, ils sont pas mal. Sam, on peut pas le juger sur un match.
Non, mais l'Angleterre, ouais, mais l'Angleterre, ils sont pas
qui
mal.
Qui a gagné d'ailleurs.
Honnêtement, que par rapport pire que Domenech de chez les Anglais.
Southgate, il est premier à un concours circonstance. C'est...
Oui, c'est pas faux.
Ah, les sélectionneurs allemands, je vois pas.
Un peu glorieux en Italie, il y a Ventura quand même. Hein,
ah oui, Ventura. En 2018.
Ah, Jean-Pierre Ventura, bien sûr. Ouais.
C'est vrai que c'est pas si vieux en plus, ça. C'était il y a quelques
années. Oublié Jean-Pierre. Bah, c'est la qualif 2000, le match contre la Suède, là.
C'est ça.
Le Italie-Suède avec le fantastique Verratti.
En Allemagne, t'en as pas, Polo ?
J'ai pas suivi
ça. Des sélectionneurs foireux, nuls.
Bien sûr que si.
Les pires, c'est qui les pires ?
Alors attends, parce qu'il faut.
Fais-moi un trio de vraiment vrais
tocards. De pipe.
Messi, celui qu'on avait été chercher sortir du formol. Entre 98 et 2000. La pire histoire, la pire période de la.
Un ancien joueur ?
Oui, ben oui, mais
c'est. Bertie Vogts. Oh,
Non,
c'est avant.
Oh là là, attendez les gars, là, j'ai pas le droit. On l'avait sorti du formol. Tu me laisses 30 secondes, je te le retrouve.
Ok.
En 98-2000, donc à l'Euro 2000.
Oui.
À l'Euro 2000, où l'Allemagne, effectivement, n'est pas terrible du tout. Et là, je sais plus qui est le sélectionneur.
Erich Ribbeck.
Erich Ribbeck, voilà.
C'est vrai qu'on l'a oublié. On l'a oublié.
Non, mais Erich Ribbeck, il avait fait une très très belle carrière et tout ça, mais en fait, il l'avait pris après 98 pour lancer, et le mec, il regardait le foot juste à la télé, il savait plus rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'on disait en Allemagne, il est sorti du
Laurent Blanc, il regardait à la télé aussi, il disait, je me souvenais de ça. Et après, il avait dit, j'ai pas pu voir ce match, j'avais pas la chaîne. T'as pas de ça, c'était génial.
Bah, c'est comme les recruteurs à Lyon, ils restent au bureau. Ils ont la télé.
Bon, c'est vrai qu'Erich Ribbeck.
C'est vrai que je l'avais oublié, Ribbeck, là, vraiment. Lui, c'est votre plus mauvais.
J'ai quand même Jean.
Mais pour moi, c'est quand même au-dessus.
J'ai quand même Jean qui nous écrit de Nouvelle-Zélande et qui lui dit coaching gagnant de Southgate, ce génie incompris.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Mount et Saka, après, c'est pas compliqué vu comment les autres étaient mauvais avant, mais moi, je comprends pas que Saka débute pas un match pareil, par exemple, à son poste de prédilection.
Mais je crois qu'il sait pas, je comprends pas comment Maguire. Parce qu'il y a trop de joueurs de même niveau, ils arrivent pas à faire les choix.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais après, que tu aies du mal à mettre en place quelque chose de
concret. Je suis sélectionneur anglais, je t'avoue que j'ai du mal. Parce que j'arrive pas à faire la distinction de niveau. Bon, ok, vas-y, 9, ok, Kane, il n'y a pas de problème, il démarre. Après, les autres, je t'avoue, je vois des mecs qui se ressemblent beaucoup au niveau, j'arrive pas à distinguer des mecs plus forts que d'autres. T'as toujours l'impression que c'est celui qui est pas sur le terrain qui pourrait faire mieux que celui qui y est.
Ouais, mais après t'as quand même les choix qui sont Maguire. Comment est-ce que Maguire qui est remplaçant
Maguire,
Manchester United,
c'est différent. Maguire,
comment
c'est
il peut jouer ce soir,
des joueurs offensifs, comment tu fais,
il provoque un péno
entre Sterling,
soir,
Mount, Foden, qui t'as d'autres, bon, Saka, tous les
non,
mecs
mais
qui peuvent
ne que la forme du
en fait.
Non mais prends l'exemple de Saka par exemple. Il est très bon avec Arsenal depuis un mois. Sur les 4 derniers matchs championnat ou 5 derniers matchs, il y a soit passe d'ess soit but à chaque fois. Premier match contre l'Italie, tu le mets piston gauche. Alors, d'accord, il a joué arrière-gauche en moins de 17 ans. Ça veut rien dire. Et ce soir, il est sur le banc. Il entre en jeu enfin sur le côté droit, là où il joue en club. Et d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Il apporte du dynamisme, de l'énergie. Il percute. Il fait des différences. Il est à l'occasion. C'est lui qui donne la passe d'aise sur le but de Mount. C'est lui qui apporte la passe qui amène le penalty sur la faute de Schlotterbeck sur Bellingham. Mais comment tu t'es dit à un moment, ah ouais, le gars il est en super forme avec Arsenal en première ligue, eh ben je vais le mettre soit piston gauche soit sur le banc. Mais c'est ça que je comprends pas en fait, parce qu'après je suis d'accord avec toi, mais pour tout le monde je pense que ça doit être dur à un moment de faire des choix. C'est compliqué, on rigole sur les entraîneurs, mais c'est pas facile non plus d'être entraîneur à ce niveau-là, et sélectionneur encore moins, parce que t'as encore moins les joueurs à disposition. Mais au moins il y a des choix qui sont plus faciles que d'autres. Rends-toi la vie facile et mets au moins les mecs qui sont en forme dans leur bonne position titulaire dans des matchs pareils, sinon ça veut rien dire.
Question éternelle, mais quand même sur le gardien là, parce que j'ai pas suivi. Vous êtes encore
il faut qu'il y ait Pickford.
Vous êtes encore avec une problématique de gardien de but en Angleterre, on est d'accord?
Ouais, on est d'accord, ouais. Alors, mais même Pickford sur sa ligne, c'est oui. Fort, il a une vraie personnalité,
sortie,
mais avec le ballon,
sortie,
il sait pas jouer. Ah, jouer au pied, c'est inexistant. Bon. Et Pop, c'est inexistant. Il a failli se faire prendre en première période, d'ailleurs, par Hoffman. Il s'est fait prendre par Hoffman et après Gundogan tire au-dessus. Pour moi, Ramsdale, c'est meilleur que Pickford. C'est meilleur sur la ligne, c'est c'est peut-être un tout petit peu moins bien, mais avec le avec le ballon et Southgate, on ne sait pas ce qu'il veut vraiment faire, mais sur ce qu'on voit encore ce soir, il voudrait quand même qu'il reparte de derrière le plus souvent possible. Mets-moi au moins un gardien qui peut repartir de derrière, qui a un jeu long efficace, qui a pas peur d'avoir le ballon dans les pieds, pied droit, pied gauche. Pas un mec comme Nick Pope ce soir qui veut rien dire.
Bon, en tout cas, l'Angleterre est en Ligue B, donc tu peux te préparer à accueillir Willy Sagnol pour un petit Angleterre-Géorgie dans la prochaine Ligue des Nations. Tu vas te régaler.
C'est ça. Kvaradona qui peut faire très mal à Maguire
Exactement. C'est fini chez les espoirs, Djibo Rapinos, France-Belgique. Ouais,
deux partout pour les deux équipes qui sont qualifiées pour l'Euro 2023 en Roumanie-Géorgie. Les buteurs français, Kwasi Ouahi, Everskaren et Ramazzani, côté belge.
Ça marche. Salut Djibo, bonne soirée. Qu'est-ce que tu veux nous dire des Allemands? Polo, après ce scénario un peu dingue,
j'ai envie de croire à une grande Coupe du Monde aussi bien pour les Anglais que les Allemands. C'est-à-dire, je me dis que la première mi-temps c'est la Ligue des Nations et la seconde ça va être la Coupe du Monde. Et donc ce soir il y a quand même le fait de refuser de perdre entre guillemets en Angleterre alors que tu mènes 2-0. Et là déjà je voyais la presse allemande s'énerver en train de dire c'est pas possible contre les Anglais, on doit l'emporter, etc. Et il y avait un côté historique des Anglais qui peuvent toujours revenir, et le fait que Kai Havertz a marqué aussi des points évidemment en faux neuf, qu'on avait Moussiala, que la défense centrale sur terre avec Süle, c'est quand même pas la même entre Süle et Rüdiger, qui est quand même le grand point fort depuis ces dernières semaines, c'est que pour la première fois depuis des années, on a peut-être un très très grand patron de la défense, c'est Rüdiger. On se rend pas compte comment il a évolué. Moi, je sais même pas. J'ai du mal à expliquer d'où ça vient. Ça, alors que Rüdiger, on l'annonçait depuis quelques années, mais j'avais presque l'impression pendant un moment que c'était raté, etc.
Quoi. C'est la confiance.
Exactement.
La confiance d'être pris dans un grand club et d'assurer.
Oui, parce qu'il y avait, quand même une nervosité qui transpirait de lui.
Moi, je pense que ce gars-là,
ça fait un petit moment.
Il est très bon, mais je pense que lui-même a pris conscience qu'il avait le niveau et vu la confiance que lui renvoient les coachs qui veulent le prendre pour devenir un très grand défenseur.
Ouais, je trouve c'est un joueur qui a eu un parcours assez chaotique. Quand je l'ai vu les premières fois à la Roma, je trouvais très bien. Même si parfois un peu confus, voire violent. Après, il y a eu un gros trou où il n'a pas correspondu aux attentes que j'avais. Et puis, à Chelsea, après que tout le monde le tapait dessus en disant que c'était un tocard, changement d'entraîneur, il fait des super matchs, il est autoritaire, gros défenseur, pareil avec ce petit côté un peu violent qui fait peur aux attaquants.
Et qui va bien parce qu'il n'y en a pas assez des défenseurs comme ça aujourd'hui.
Et là maintenant, je trouve qu'il est en pleine bourre et qu'il est au niveau qui devait être le sien.
La rencontre
quand il a
entre un joueur et des entraîneurs, et c'est le truc qui te fait basculer ta carrière, où on te dit que t'es pas seulement un mec qui est là pour mettre de l'impact, t'es aussi un bon footballeur.
Tu passes
c'est encore pire.
Tu te dis quand est-ce qu'il va faire la boulette dans le match en équipe nationale lorsqu'il était titularisé, le mec, c'est lui qu'il faut mettre, quoi.
Et en parlant de ça, il fait méga confiance à Kerrer. Hein.
Ah, mais c'est fou, ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est sa polyvalence.
Non, il n'y a pas d'arrière-droit.
On va revenir au match contre la... Et ben, il va mettre Hoffman en arrière-droit. Le Kerrer, c'est fou. Il rentre en deuxième mi-temps. Bah,
Kerrer, il a commencé à droite, là.
Oui, il a joué une défense à 4.
Contre la Hongrie, c'était Hoffman, parce qu'il n'y avait pas d'arrière-droit.
Il n'y a pas d'arrière-droit en Allemagne, mais Hoffman, ça va être très offensif de toute façon. La question du de l'arrière-gauche aussi, c'est soit Rome, soit Gosens, en espérant que Gosens revienne à son niveau. Mais Kerrer, c'est fou, parce qu'il est rentré en seconde période, donc ils sont passés dans une défense à 3 contre la Hongrie. Il était incapable de faire une passe à ses coéquipiers qui s'étaient à 10-15 mètres. Il trouvait le moyen de filer le ballon à ses adversaires. Pourquoi il le conserve toujours? Je n'en sais rien. Parce qu'en plus, à son poste, il y a des possibilités, notamment Ginter, qui est revenu à Fribourg et qui est en pleine forme, etc. Je sais pas. C'est le chouchou. Hein. J'ai pas ce qu'envie de dire. C'est comme Podolski à l'époque avec Joachim Löw. Il est toujours
c'est
là.
C'est vrai,
mais
c'est le chouchou, Podolski.
Ouais.
Alors qu'il est devenu quoi, Podolski?
Il joue souvent au golf, les mecs, on sait.
Avec Joachim Löw, du coup, non
oui.
Ou ski. Dernière question, Polo. Pourquoi les Allemands ont toujours des maillots moches?
Bon, pourquoi
ils sont moches? Allez, non, mais arrêtez les fantaisies.
Les Allemands, ils ont jamais de maillot moche. Quand ils ont leur beau maillot blanc,
justement,
noir,
c'est ce que j'allais dire. Quand ils ont le beau blanc, voire le vert, je suis d'accord. Mais là, les fantaisies, avec les bandes et les machins, faut qu'ils arrêtent, Adidas.
Je te trouve un peu dur avec ce maillot aux bandes noires.
Moi aussi, je trouve que t'es un peu dur. Hein.
Oui. Même si je préfère le blanc liseré noir, qui est le grand classique.
Toujours, la sobriété. Toujours. Ah. La sobriété, ça fonctionne toujours.
Oui, mais je suis d'accord.
C'est vrai, pas trop de bandes, arrêtez les bandes. Sauf pour les 2000 ans.
Merci Polo et Julien. Johan, on te garde juste deux minutes pour l'Italie, si tu veux bien.
Ça sera de regret ou pas?
Eh ben, on va voir ça dans quelques instants. Ils sont qualifiés pour le Final Four, en tout cas. Merci à Julien, merci à Polo. Demain, on fera la Coupe du Monde sans vous en direct du parc, hein, parce que, on va parler des autres pays. Voilà.
Ils viennent même pas, genre, ils ont pas les dépendances?
Bah non, ils ont plus de Polo, il a pas de dépendance, hein.
Il avait pas mis les Pays-Bas dans sa dépendance?
Non, les Pays-Bas, c'est Johan Crochet maintenant.
Ah, je savais pas qu'il s'était refilé,
Ah oui.
Il joue au risque. Faut bien justifier son salaire, hein.
Il joue au risque. Et il ouais, t'as quoi comme dépendance à la Coupe du Monde, Polo?
L'Autriche?
Non, la Suisse. Pas l'Autriche. La Suisse.
C'est la Suisse.
Les Tchèques, ils y sont pas?
Non. C'est la Suisse, son
la
pays.
Suisse. Ouais, de toute façon, Polo a rendu les Sudètes
son
depuis
son
longtemps.
Pays bis, c'est la Suisse.
Les Sudètes. Ça me rappelle tellement de révisions.
Et Julien a le pays de Galles, quand même, comme dépendance.
C'est vrai.
Ouais. Grosse surprise à venir, hein, je vous l'annonce.
Ah bon,
Aaron Ramsey?
Bah, je suis un peu obligé, la belle famille, tu sais tout ça. Je peux pas dire du mal. Contractuellement, je suis pas. Sinon, après, c'est divorce. Donc.
Bon, allez, salut les gars. Dans un instant, l'Italie.
La Coupe du Monde, Johan,
et ensuite, on partira au Qatar. Comme il le sait pas encore. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot.